Je comprends ce que c'est de devenir une femme, je comprends ce que c'est d'être un garçon. J'arrive à renouer, même s'il y a une bagarre ou un truc, je veux tout que ça ronge, et on est tous unis.
Épisode numéro 6. Être femme au-delà des mères.
J'habite chez ma femme. Les morées, ils tiennent encore, surtout les femmes, parce que quand elle est fatiguée, ben, elle peut dire au mari de partir.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Amérindienne Guyane, Mahorais de Mayotte, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène et réclament le droit à la différence. Ils inventent un laboratoire pour demain. C'est la voix des peuples autochtones, la France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors, peut-être, est-il temps de l'écouter. Direction la Polynésie et Mayotte. À Mayotte, dans ce département français, les femmes deviennent des hommes pendant les rituels de possession. C'est un espace de liberté et de transgression dans cette société musulmane, matrilocale, où l'homme habite chez sa femme. En Polynésie, il n'y a pas une femme, mais des femmes de sexes différents. Et les atypiques Mahou, les travestis, ou Réré, les transsexuels, ont toujours eu leur place dans la société. Ils sont l'expression d'un troisième sexe. Deux peuples, deux continents et un même voyage, être femme au-delà des mers. Bruno Sora, anthropologue.
La Polynésie, c'est une femme dans l'imaginaire occidental depuis longtemps. Justement, la femme, au moment des premières rencontres, était un peu un objet d'échange et un lien pour domestiquer, pour apprivoiser ces diables blancs qui arrivaient comme ça, pour savoir si c'était des hommes, tout simplement, aussi. Non, mais je crois que les Tahitiens ont des femmes très belles et ils en sont fiers même en dehors de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément pour l'autre qu'ils sont contents d'avoir des femmes très belles. Il y a toute une culture de la beauté, traditionnellement, hein, du plaisir, de l'érotisme dans ce pays, qui se voit dans la danse, qui se voit dans les bains de rivière, qui se voit dans des tas de choses qui font que ce n'est pas toujours par rapport à l'occidental que la femme tahitienne est en scène. Donc il y a tout ce contexte un peu traditionnel du culte de la beauté des Polynésiens, plus d'une relation coloniale qui fait que c'est une petite revanche finalement. On n'arrive peut-être pas à gagner politiquement, militairement, économiquement, mais au moins on a des femmes qui s'imposent. Bien sûr, les Polynésiens sont machos. Voilà. La femme, elle doit être miss, et le garçon, il doit être champion de pirogue ou de surf. Mais voilà, les rôles sont quand même assez posés. Cela étant, il y a un certain nombre de garçons qui se positionnent dans des attitudes très féminines, des hommes-femmes. C'est vrai qu'ils sont très visibles. Donc c'est vrai qu'on a, oui, des employés de banque, des enseignants, des gens dans tous les milieux qui sont effectivement ce qu'on appelle des rere ou des mahou. Mais très clairement, on peut voir quand même que dans les sociétés polynésiennes, il y a une présence et une acceptation de ces personnages un peu transgenres, sans que ça crée un drame absolu. En tout cas, sans que ce soit un non-sens absolu.
Ce matin-là, à l'aéroport de Papeete, l'exotisme est au rendez-vous. Des musiciens jouent de la musique, une vaïnée en pareo, une fleur de jasmin dans les cheveux, offrent des colliers et des paroles de bienvenue. Mais très vite, une autre image s'impose. Au milieu du groupe, un ou deux hommes efféminés et une réré, une femme séductrice, sophistiquée, au gabarit masculin. Mais il faut plus qu'un œil averti pour les reconnaître. Intégrées dans la société, certaines sont des vedettes, d'autres travaillent dans le tourisme. Aujourd'hui, à Papeete, dans chaque bar ou restaurant, elles sont là, serveurs ou cuisiniers, souvent totalement habillées en femmes. On apprécie leur gentillesse et leur douceur. Elles sont ce troisième sexe, reconnu et accepté.
Je viens faire signer mon bon.
D'accord. Vous allez au centre de formation, là. D'accord. Ok.
Monsieur Vanessa, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Et ce matin, c'est un cours de quoi?
C'est un cours de français.
Puisque, en fait, vous suivez une formation pour devenir...
Télé, animatrice télé.
Et votre nom, c'est...
Charlize.
Ou pour certains, sur les papiers...
Ah, Johan. Voilà.
Donc vous êtes arrivée en tenue de jour, c'est-à-dire en short, en t-shirt.
En collant haut et une veste rose.
Voilà, une petite veste rose, les cheveux attachés.
Voilà.
Pas trop de maquillage.
Pas du tout de maquillage. À la naturelle.
Et donc ça y est, maintenant vous êtes une rérée.
Exactement, voilà. Aujourd'hui, je suis une rérée. Fière de l'être. On y va ?
Alors moi, je m'appelle Gilles Dussolier et je suis le responsable de ce centre de formation qui est notamment spécialisé dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur insertion professionnelle.
Et quand je suis arrivé, j'ai demandé une possibilité de pouvoir être orienté vers ça, vers le visuel. Ils m'ont dit que ça pourrait marcher, il y a du travail, mais voilà.
Oui, effectivement, c'est un métier qui la passionne.
D'ailleurs, vous dites « elle ».
Parce que moi, en début de formation, je leur demande comment ils veulent que je les appelle. Est-ce qu'ils préfèrent que je leur dise « il » ou « elle » Et s'ils disent « elle », moi, je respecte leur volonté. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Il faut qu'ils s'épanouissent. Voilà. Donc, s'ils s'épanouissent personnellement, c'est comme ça, c'est à travers cette étape-là qu'ils pourront s'épanouir professionnellement. C'est culturellement bien accepté. Ceci dit, dans le milieu professionnel, il y a encore beaucoup de réticences et encore pas mal de difficultés d'insertion professionnelle pour des gens comme eux. La partie bâtiment, enfin tous les secteurs traditionnels classiques, gardiennage, en nettoyage, c'est pas évident non plus. Après, sur l'hôtellerie, la restauration, qui sont quand même des secteurs d'avenir pour la Polynésie, je pense que la communauté Mahou Réré a de beaux jours devant elle.
Vous avez beaucoup de Mahou, de Réré en formation ?
C'est un par groupe de 12, voilà.
C'est là-bas, dans la salle.
On passe donc aux exercices sur ces histoires d'accord. Je vous donne, comme d'habitude, les petites feuilles.
Cécile Rispard, professeur.
Avec les trois cas, ok ? Vous vous rappelez quand on fait le genre et le nombre ? En français, on a quand même un problème avec le masculin et le féminin. Est-ce que Charis est masculin ou féminin ? Est-ce qu'il ne faut pas créer un troisième genre ? Puisque dans la société polynésienne, on a les hommes, les femmes et les rere-mahou. Et il n'y a pas de pronom, de tout ça, de grammaire pour cet entre-deux, puisqu'on pourrait dire ça. Ou alors, que féminin ? Non. Est-ce que toi, tu te considères quelque part un peu homme ou pas du tout ?
Non, je me sens toujours homme. Je n'oublie pas mon passé. Je sais que je suis né homme, mais que je suis devenu aussi une femme avec le temps parce que c'était un choix que j'ai fait de vouloir être plus féminine.
Et c'est elle.
On fait elle.
On
dit elle. Elle.
C'est très clair.
Et dans la grammaire française, on fait comment ?
Elle. Il faut inventer un troisième.
C'est une femme.
Il faut inventer un troisième.
Madame, sinon, il y a tantine.
Tantine ?
Ouais. Tata,
tata. C'est vrai, les on dit tata. Tata ou tantine, ouais. Alors, ce matin, c'est un cours qui s'appelle l'EFS, éducation familiale et sociale, qui parle un peu plus de société, de culture locale et extérieure. Ça vous intéresse de parler rere, mahou, dans la société polynésienne ? Peut-être ce serait intéressant d'avoir le point de vue de chacun.
Alors, les mahou, c'est... On peut dire que c'est une moitié de la femme, parce qu'avec ces personnes-là, la communication et même niveau sentiment, ça passe très vite par rapport à un homme.
Vous avez l'impression qu'elles vous comprennent mieux ?
Voilà. Et les sentiments qu'on a, ils ont aussi.
On est attentionné, on est tout le temps à l'écoute, on est comme des confidentes.
Qu'est-ce que vous avez de plus que les filles ?
Qu'est-ce qu'on a de plus ? De comprendre les deux, de pouvoir les diriger. Parce qu'il y a même des garçons qui viennent nous voir quand ils ont un problème dans leur couple. Et on a toujours la solution. Bon, et ça marche la plupart du temps.
Vous le voyez comment ? Vous le voyez comme un homme ou comme une femme ?
Entre les deux.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Mais il paraît qu'il y a des fois des moqueries de la part des hommes.
Ah, c'est vrai ça.
J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus compliqué quand on est un homme plutôt que quand on est une femme.
Il y en a qui ont honte d'être avec
des mâles.
Le fait est que c'est un homme tout comme eux. Ils sont des idiots.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même une certaine. Ils sont très proches en général des filles, ouais. Groupe, et moins proches des garçons, mais sans animosité aucune, respect en général.
On l'appelle ma sœur.
Ma sœur Lucharis.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est, elles se sentent naturellement comme ça.
Mais quand même, vous savez qu'il y a peu de sociétés qui a comme ça des hommes, des hommes-femmes, des femmes-hommes. En métropole, par exemple, ça n'existe pas.
Madame, non. Ça n'existe pas les RR là-bas ? Pourquoi ?
Alors, les homosexuels,
voilà.
Mais c'est pas du tout la même chose que les marous et les homosexuels. C'est très particulier à la Polynésie. Mais c'est jamais autant qu'ici. Et c'est jamais elle, ma sœur, jamais. Jamais, jamais.
C'est interdit, madame.
C'est pas interdit, c'est que... Alors, ça se fait pas.
C'est la culture.
Non, ben, qu'on est mieux chez nous et qu'on se respecte mieux ici que...
Tout à fait.
Ailleurs.
Ça nous étonne beaucoup.
Ils sont pas accueillants, ces gens-là. Ils sont pas polis.
En fait, comme ils ne connaissent pas, tu vois, ça les choque. Ça va choquer des métropolitains.
C'est vrai ?
Mais bien sûr. Et moi, j'ai une dernière question, tant qu'on est à parler là-dessus. Est-ce que vous en avez dans vos familles ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous gêne ? Est-ce que ça arrive et puis c'est comme ça, on voit très tôt ?
On est tous humains, madame.
Et je pense qu'en Polynésie, dans une famille, il y en a toujours des un ou deux rere dans Umahu dans la famille.
Et c'est bien accepté ?
Oui, oui, madame. Et après, ben, tu as des petits soucis avec le papa. Parce que le papa, il a du mal à accepter un enfant efféminé.
Voilà. Au niveau des filles, est-ce qu'il y a des filles qui se sentent hommes, puisqu'il y a des hommes qui se sentent filles ? Je veux dire, alors on est dans une société a priori où on accepte beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez, vous, des copines à vous ? On dirait l'équivalent d'un réré, mais de l'autre sexe.
Oui, mais madame, moi, j'en ai deux dans ma famille.
Deux cousines qui sont dans la famille, qui se sont fait garçons. Au niveau habillement, pas au niveau... Et ils sont avec une femme et ils ont des enfants.
Tout est accepté.
Vive la Polynésie. Oui.
On accepte tout. Ah, madame, nous, on accepte tout, on n'a pas de problème.
Oui. Que ce soit féminin, efféminé, masculiné, on a toutes sortes de races.
De nos jours, c'est plus toléré. Bon, c'est pas complètement parti. Quand tu passes devant des groupes de garçons et... Ils se moquent, ils nous appellent ma sœur. C'est pas par gentillesse, c'est par moquerie. Ils éclatent de rire. En gros, mais c'est rien. On a de la chance parce que, autre part, comme on disait, c'est pas accepté partout.
Il n'empêche que dans cette formation où il y a 12 jeunes, deux hommes, et on sent les hommes beaucoup plus sur leur réserve.
Ils sont pas très à l'aise parce que je pense que ça renvoie aussi à une sexualité, à leur propre sexualité. Est-ce qu'ils peuvent désirer un homme qui est devenu une femme ? Et quelle est leur part personnelle de féminité en eux-mêmes ? Voilà, ça leur renvoie pas mal de questions. Donc les hommes sont pas très à l'aise avec ça. Et donc ils ont vraiment des difficultés de positionnement. C'est vraiment difficile pour eux. Et les rapports hommes-femmes sont un peu difficiles. Et vraiment les mamans sont vraiment un emblème en fait. Voilà.
Bruno Sora, anthropologue.
Il y a toutes sortes de degrés, disons, de corps féminin, d'attitude, et puis aussi de volonté d'aller jusqu'à... Il y a celles qui veulent vraiment aller jusqu'au fait d'être un transsexuel, de changer d'état civil, d'être opéré. Mais il y a des gens chez les Chiki, c'est ce qu'on appelle le Mahou, en fait. Le Mahou, c'est un personnage efféminé, assez doux, assez... qui n'est pas très très viril, mais ça peut être des degrés et ça peut même être un moment de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gens qui sont mahou à 15 ans ou à 18 ans et puis après qui finalement deviennent très masculins. Donc ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. Et c'est vrai que parfois, c'est même plusieurs garçons dans la famille, finalement, qui vont être efféminés, parce qu'il y en a un qui a osé, et ensuite, les autres ou les cousins vont suivre le pas. Donc, le rôle des modèles est très important dans le façonnage de l'identité. Donc, la question qui pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que l'identité, c'est un choix. Je ne suis pas du tout sûr que les Rere et les Mahu décident un beau matin, comme ça, de devenir Rere ou Mahu, mais ça veut dire, en tout cas, qu'ils ont le courage d'assumer qui ils pensent être vraiment au fond, et qu'ils ont une certaine idée de leur identité. Voilà, ils se voient en tant que femme, en tant qu'élément du genre féminin. Être Mahu, au fond, c'est un personnage un peu traditionnel. Même les écrits du Capitaine Cook évoquent le personnage du Mahu, qui est un personnage voilà, féminin, mais qui rend des services dans la communauté, qui se rend très utile, qui est très actif. Et c'est peut-être à cause d'ailleurs des interdits de proximité des genres dans les temps anciens. Les femmes étaient tellement taboues avec leurs règles, etc. Peut-être que les Mahu avaient un rôle justement pour nettoyer la maison des guerriers quand les femmes ne pouvaient pas y pénétrer. Enfin, le Mahu avait sa place dans la société traditionnelle, mais en tout état de cause, aujourd'hui, en 2017, il y a beaucoup de Rere et de Mahu dans les villages, dans tous les villages, des îles australes, des îles marquises, des îles Tuamotu.
Voyage en terre d'outre-mer, chez les Marquisiens, en Polynésie. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Dans ces îles éloignées de la capitale, le Mahu a une place à part. Héritier de cette longue tradition de domestique, il est un personnage discret. On le croise à l'église ou au marché, sans vraiment savoir qui il est. Le jour, il est en tenue décontractée. Le soir, il est somptueuse ou elle est très beau. On ne sait plus, mais lui n'a aucun doute sur son identité.
Alors, je m'appelle Maria, Maria Annie, Kokau Annie. Maria Annie, ça veut dire chemin du ciel. Et Kokauani, se baigner dans le ciel, c'est mon nom de famille.
Vous faites quoi, en fait, ici?
À la maison, je m'occupe du ménage, ben, je m'occupe de la cuisine, de tout ce qui est entretien de la maison. Je dis que je suis un garçon, mais qui vit avec cette différence, ce besoin et ce ressenti au quotidien. Que j'ai. Souvent, je pense comme une femme. Souvent, le plus souvent possible dans ma vie. Maintenant, j'ai fini par accepter ça. Je me suis rendu compte de ça très, très, très tôt. Je pense que vers l'âge de 6 ans ou 7 ans déjà, j'ai commencé à reconnaître ça. Plus tard, vers 9 ans, 10 ans, avec le regard des gens, j'ai commencé à cacher ça, à en avoir honte, à me sentir même des fois sale, sale, parce que je ne l'acceptais pas. J'ai été clémenté à ma mère et elle m'a ri au nez. Ça m'a fait encore plus mal. Je voyais de la honte au quotidien dans le regard. Il préférait me cacher, me laisser à la maison, me maltraiter mentalement.
Il vous traitait de quoi?
Tu me fais honte. Tu n'es plus mon fils. J'ai honte de toi.
Et qu'est-ce que vous avez décidé après?
M'éloigner. M'en aller. Partir sur Tahiti. Quand je suis arrivé sur Tahiti à l'école, c'était mieux. J'ai plus trouvé le calme en moi. Et avoir moins honte de moi, j'ai gagné en assurance. Le fait de m'être accepté, je vais dire que j'ai réussi à dompter ça, m'émanciper, me construire, à accepter cette différence qui faisait partie de moi que mon entourage familial rejetait. Parce qu'il est arrivé un moment où je me suis senti vraiment sale, comme si j'étais le plus vilain péché du monde.
Est-ce que vos parents vous ont accepté?
Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, maman a tout brûlé. Par exemple, elle se débarrasse de mes robes. Ça m'avait tellement fait mal que à chaque fois qu'il y avait des grands repas familiaux, un anniversaire, Enfin, je préférais ne pas y aller parce que sinon j'étais le sujet de conversation. Ben, je pouvais être la cible. J'ai même tenté de me suicider. C'est parce que ils ont tellement honte de moi. S'il faut que je parte pour les guérir, pour guérir leur honte, ben par amour, je le fais.
Est-ce que pour autant ils sont très bien intégrés, très bien reçus? C'est quand même très compliqué parce que globalement, un père de famille, quand il a un garçon, il attend quand même de son garçon qu'il soit un garçon, qu'il lui fasse des enfants, qu'il transmette le nom de la lignée. Donc ça fait quand même du grabuge dans les familles quand un garçon décide de devenir une fille. Décide ou pas décide d'ailleurs, parce que c'est pas évident que ce soit une décision personnelle. Mais bon, acte, en tout cas, se comporte comme quelqu'un qui veut devenir une fille. C'est quand même pas si bien reçu que ça. Il y a beaucoup de pères qui frappent leurs fils, de frères qui leur parlent plus. Enfin, ça reste d'une acceptation quand même très difficile. Et souvent, ils vivent quand même un peu en équipe ou en solidarité fraternelle ou de sœur, je ne sais pas comment dire les choses, mais ailleurs quand même. Donc il y a ceux qui partent à l'étranger, il y a ceux qui partent à Nouméa, il y a ceux qui partent en France métropolitaine, il y a ceux qui partent à Bora Bora, mais ce n'est pas toujours si facile que ça de vivre en tant que réré dans sa propre famille.
J'ai fini par accepter qu'ils n'accepteront pas. Et je ne veux plus me mentir à moi-même.
Vous avez envie de devenir une vraie femme?
Oui, oui. Parce que c'est devenu un besoin dans ma vie avec l'âge. Pour moi, j'ai bien profité de ma vie de garçon, de ma force de garçon. C'est comme ça que je vois les choses. J'avais besoin de ma force de garçon dans ma jeunesse pour me défendre et pour réussir dans la vie active. Moi seul, par mes propres moyens, étant un rêve réussir, c'est pas facile dans la société de se faire accepter, et étant rêve déjà, et de pouvoir payer ton loyer, payer ton pain quotidien, tu ne peux gagner qu'en assurance et en bonne fierté. Et je pense que c'est un besoin pour moi dans ma vie d'être opéré. Déjà, je considère mon âme comme étant une âme de femme. Ça, oui. C'est bien plus profond que le cœur. C'est un ressenti intérieur en moi qui fait que cette différence ne m'a jamais fait de mal.
Alors il y a une petite différence parce que le Mahou, c'est quand même celui davantage dans le milieu rural, traditionnel, qui est efféminé, qui va qu'à des activités féminines, mais qui n'est pas forcément sexuellement attiré par les hommes, ou en tout cas sa sexualité ne suffit pas à le définir. C'est son attitude féminine qui le définit. Tandis que celui qu'on appelle le Rere, c'est davantage quand même un personnage dont on pense qu'il a une sexualité avec des hommes, et donc la sexualité est un élément de la définition du Rere, alors que le Mahou, c'est davantage son comportement. Alors on dit aussi que c'est quand il y a eu les Américains à Bora Bora, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des milliers et des milliers de GI qui étaient à Bora Bora, et que c'est à cause d'eux, enfin, avec eux, que tout d'un coup, les Rere se sont mis à pulluler à Bora Bora. On ne peut pas exclure le fait que l'autre soit un facteur qui pousse au développement de ce genre d'identité. Après l'arrivée des militaires, les militaires cherchaient plutôt des femmes tahitiennes que des rères quand même. Mais dans les bars de propriété, c'est vrai qu'il n'y avait pas des femmes tahitiennes disponibles pour tout le monde, donc il est possible qu'un certain nombre de garçons se soient mis finalement à devenir ce qu'ils avaient envie d'être, voilà, en talons hauts et en barésie. Donc c'est un personnage beaucoup plus sophistiqué, plus abouti. Une posture de travesti ou transsexuel un peu international.
Voyage en terre d'outre-mer sur France Inter.
C'est ainsi que les rérés en talons hauts et barésies ont fait leur apparition. Aujourd'hui, le Veinéri Tea House de Papété est le miroir de ces identités plurielles.
Bonjour.
Ça me fait plaisir d'être ici, tout autour des sémistes. Pour ma part, moi, j'ai été élue trois fois Miss. Alors, moi, c'est Angèle Lio. Je suis une femme au foyer, je suis mariée.
Vous êtes en tout cas resplendissante avec votre couronne de fleurs, votre magnifique robe longue, bleue, resplendissante.
Sauf que, on veut toujours en faire plus. On veut faire plus femme, quoi. Et du coup, parfois, ben, c'est à cause de ça qu'on se fait griller tout le temps.
Moi, c'est Shelby Hunter, artiste de la Polynésie en étant chorégraphe de danse polynésienne, coiffeuse, esthéticienne. Je suis une femme intérieure et extérieure. Je suis née homme, mais je suis devenue une femme. Dans le lieu des Miss Tahiti, ça m'a toujours choyée. Ma mère a été Miss, ma sœur a été Miss, j'ai été Miss. C'est une histoire de famille héréditaire. Alors j'ai travaillé avec certaines d'entre elles pour les Miss Tahiti. J'en ai chaperonné plusieurs, comme celles qui sur les photos qui sont là actuellement. En étant styliste aussi et couturière, tu reflètes en fait ton intérieur sur la vraie femme en face de toi. Tout ce que tu crées, tout ce que tu fais pour la femme, tu as l'impression de te voir toi-même. Ça a toujours été un plaisir pour moi de chaperonner les Miss Tahiti. J'en ai coaché ici à Tahiti, même à Vegas et à Hawaï. J'apprends beaucoup selon leur façon de se tenir, leur posture, leur charisme. Tout apprendre les manières d'une personne juste pour pouvoir acquérir un côté médiatique, mais très parfait.
Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez ?
Plus de féminité et de confiance en soi. Je comprends ce que c'est de devenir une femme, je comprends ce que c'est d'être un garçon. J'arrive à renouer, même s'il y a une bagarre ou un truc, je veux tout que ça ronge, je veux tout que ça soit clean, et on est tous unis.
Bon, ben donc moi, Ina Grépin, donc je suis née femme et je reste femme. Et bien ancrée dans ma... Voilà, dans mon identité sexuée, pour le coup. Moi, j'ai fait une thèse sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte au Tuamotu du Nord-Est. Et effectivement, pendant 2 ans, ben, j'ai vu des petits garçons arriver à l'orée de l'adolescence et puis d'un seul coup devenir plus féminin. Donc, quand je dis « in between », ça veut dire que c'est une personne qui peut faire aussi le lien entre les deux. Ben, bah, oui, à la fois fille, à la fois garçon. Donc, du coup, je pense qu'une personne qui peut faire passerelle aussi entre les genres. Moi, ça m'inspire la réflexion suivante, c'est que finalement, il ne faut pas penser... homme-femme, en fait, en Polynésie, on est plus une personne relationnelle. On est la sœur de, la fille de, la... On ne se pense pas comme un individu, un égo replié sur soi. C'est-à-dire, il y aurait la femme, l'homme. On est une personne reliée à un cercle familial, social. Et donc, du coup, ça permet de décliner. On se décline en rôles sociaux, mais on n'est pas des femmes, comme s'il y avait les mâles et les femelles. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça, peut-être, qu'il y a de la place pour les personnes in-between. Et ça permet, effectivement, du coup... d'ouvrir toute la palette des possibles, je pense. Hein.
C'est exactement ça. Oui.
Alors, est-ce la société polynésienne qui est plus tolérante ou la société occidentale qui est intolérante, je sais pas. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça renvoie, par effet miroir, à l'Occident, quelque part. Ça renvoie des questions. Voilà. Qui est tolérant, qui est intolérant? Parce que cette diversité, je trouve, qu'on a en Polynésie, pour moi, c'est la normalité. Et ici, on a peut-être une déclinaison plus plurielle. Ça va, en fait, de l'efféminé à l'homosexuel, au travesti, au transsexuel. Il y a toute une palette de déclinaisons possibles dans l'identité sexuelle. L'analyse d'Irène Théry montre que finalement, c'est l'Occident, à un moment donné, qui pose comme naturel ces catégories, mais qui, en fait, à un moment donné, les impose aux autres. Mais au Moyen-Âge et à la Renaissance, effectivement, il y avait la place pour des personnes in-between, dans le monde entier, pour ces personnes qui, j'allais dire, qui chevauchent un peu les genres, en fait, les règles du genre, la grammaire sexuée et sexuelle. Donc finalement, c'est l'Occident contemporain qui nous fait croire, qui a figé les catégories masculin-féminin, comme si c'était une fabrication occidentale du 19e siècle. Et c'est par le détour, ce qui est intéressant, c'est que c'est par le détour par d'autres sociétés, notamment la société polynésienne, qu'on a pu repenser aussi le modèle occidental. Non pas comme quelque chose de naturel, justement, mais comme quelque chose de culturel qui correspond à une société donnée, qui est la société occidentale du moment. Et notamment, Irène Théry a quand même été chargée par l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale en France, de la question du mariage pour tous. Et elle est une des artisanes, effectivement, du penser autrement, de dire, se marier avec une personne du même sexe, pourquoi pas.
Donc là-dessus, c'est l'Occident qui a évolué énormément, finalement, en 30 ans, et qui s'est, j'ose pas dire, polynésianisé. L'Occident a accepté les mères célibataires, les couples mixtes, etc., depuis pas très longtemps. Hein. Là-dessus, les Polynésiens ont une longueur d'avance en matière de mères célibataires, en matière d'hommes qui sont nés hommes et qui ont envie de devenir femmes, ou pourquoi pas l'inverse. On parle beaucoup moins de l'inverse, mais l'inverse existe aussi. Donc je pense que la culture polynésienne avait une longueur d'avance, une ouverture et une leçon d'humanité à nous donner, là encore, dans ce domaine aussi.
À 15 000 km de là, à Mayotte, les femmes deviennent des hommes lors des rituels de possession dans une société matrilocale et musulmane.
You are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night. You seemed to move through the places that I feared. You lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. May all of your
Moi, je me suis intéressé au corps de la femme dans la cérémonie de possession. C'est les femmes, donc à travers le rite de possession, qui deviennent hommes. Et pas n'importe quel homme, des rois. Des hommes puissants, donc, qui imposent l'autorité. Et donc, ces femmes, à travers le rite de possession, vont être possédées par des hommes, paradoxalement, pour être maîtresses de leur corps.
Un islam atypique et féminin. À Mayotte, elles affichent un art du paraître qui impose le respect des hommes. Parées de bijoux et habillées de salouva, la tenue traditionnelle, elles sont coiffées de fleurs de jasmin, soigneusement maquillées, les mains et les bras recouverts de henné. Les femmes de Mayotte rayonnent de leur beauté. À Tsimkoura, dans ce petit village du sud de l'île, elles se retrouvent pour chanter les louanges du prophète et s'adonner à une danse aussi séduisante qu'envoûtante. Le débat est à la fois un chant, une performance, une rencontre et un événement. Elles vivent dans cet art musical et de tout leur être.
Il y a l'appel à la prière, donc elles se sont arrêtées pour ça. Alors c'est très beau parce que ce sont les jeunes filles qui sont en rangée et qui dansent. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de montrer que les mères ont fait bien leur travail, elles ont bien transmis les belles manières à leurs filles et les valeurs qui sont au fondement de la société mahoraise. Moi je suis Elena Bertuzzi, je suis en train de faire une recherche particulièrement sur le débat, mais c'est vraiment parler de la femme et de la féminité mahoraise qui est le but en fait, de ma recherche.
Bonjour, c'est Kourati, oui, effectivement, la présidente de Nourania. On peut dire même que c'est la femme mahoraise qui a fait que Mayotte se développe. Parce que dans les groupes comme ça, on fait nos cotisations. Là, quand par exemple, je marie ma fille, il y a une cotisation qui se fait. On amène cette cotisation d'argent avec joie pour me donner. Ça, c'est une aide pour m'aider à faire les préparations de mariage de ma fille, par exemple. C'est pourquoi je vous dis que le rôle d'une femme mahoraise dans la société, dans la vie de tous les jours, c'est très important, c'est immense.
Alors il y a toute cette préparation, effectivement, vous êtes toutes là en cette fin d'après-midi à préparer les couronnes de fleurs, la nourriture, la cuisine.
C'est ça ce qui fait la femme mahoraise, c'est se retrouver avec les plus âgés, les moyens. Vous voyez les jeunes qui participent. C'est ce qui est très important pour nous, c'est surtout l'image de l'éducation.
La manière de fêter en quelque sorte, de remercier les mamans qui ont fait un bon travail éducatif vis-à-vis des filles qui dansent avec une extrême élégance, une extrême finesse. Donc c'est qui représente aussi et montre en quelque sorte aussi une attitude morale. Le fait que ça soit discrète, raffinée, avec des belles manières, ça veut dire que dans la vie, c'est une femme de ce type. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en fait, on est dans une société de l'islam, je dirais, et qui doit composer avec cette présence de la femme qui n'est pas du tout effacée au secondaire comme ça peut l'être dans d'autres pays.
On rentre dans cette pièce où elles sont une petite vingtaine. Certaines ont déjà un masque. D'autres sont déjà en tenue d'apparat.
Ils font toujours énormément attention à elles. Je crois que c'est vraiment une manière d'être. Même le Mtsinzano, ces masques de beauté qu'ils ont, c'est toujours une espèce de beauté work in progress. Parce que ça donne la peau douce. C'est les femmes mariées qui se mettent ça sur le visage. C'est pour se préparer, pour être parfaite pour l'homme aimé. Et comme une espèce d'offrande de soi.
J'ai commencé à 6 ans, ma tante m'a amenée ici. Plus je venais.
Sophia, de l'association aussi, de débat Nourania.
La joie de se retrouver ensemble, c'est surtout ça, de chanter, de danser. Je me vois mal ne pas venir.
Et en même temps, je vous voyais, dès que le débat a commencé, vous étiez presque une autre femme.
Oui, ça donne le sourire tout de suite. Donc on se transforme, on danse, on suit la mélodie en fait. Ça vient naturellement. On devient une autre personne, tellement c'est beau, tellement on est dedans.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Il faut savoir que tout village a un ou plusieurs groupes de débat.
Alors, je m'appelle Sophie Blanchy, je suis ethnologue au CNRS.
Mais c'est-à-dire que le débat permet aux femmes, en fait, de réaliser en même temps plusieurs types d'activités. Il faut se rappeler que le débat, c'est chanter des poèmes religieux. Ce qui est d'autant plus intéressant pour elles. Elles se réalisent dans leur identité, si vous voulez, de musulmane, tout en exaltant une sorte d'esthétique locale et d'esthétique féminine aussi, puisque elles sont certes musulmanes, mais elles ne se retiennent pas de se parer toutes ensemble. Là, il y a une uniformité aussi qui souligne l'action de groupe aussi. Donc, c'est en sorte la beauté générique de la femme.
Aujourd'hui, c'est vendredi, donc on aime bien s'habiller le vendredi, un beau salouva, c'est très important. Surtout quand on va au débat, on est trop jolie.
La femme, elle est tellement belle que le roi, quand il la voit, il tombe dans les pommes. Il s'évanouit. La femme mahoraise, elle répand une lumière que dans les contes on appelle Nour. Nour, c'est la lumière en arabe. La beauté de la femme prend une dimension un peu mystique dans les contes. Dans la réalité, les femmes ont l'art de se maquiller, de se faire belle, de s'arranger, surtout dans certaines situations. Il est vrai que dans la vie de couple, on fait très attention à préserver une esthétique, en fait. On met des fleurs parfumées dans le lit, mais c'est aussi pour un homme. On ne doit se faire belle que pour son mari, qui est le seul homme habilité à profiter de cette beauté, mais on peut aussi le faire pour les autres amis, les femmes, et pour la société dans son entier, oui.
Le débat, c'est aussi la féminité, donc... Et la beauté, bah, c'est la féminité. Et on aime bien faire ça, ressortir les deux dans le débat, montrer qu'on est des femmes maoraises. Donc même le débat, bah, comme on se fait toutes belles, bah, les hommes étaient un peu jaloux. Il y en a même une dans notre madarasat qu'on a surnommée Mandela, Nelson Mandela. Parce que son mari l'enfermait, il ne voulait pas qu'elle sorte. Jusqu'un jour, elle s'est révoltée, elle a dit non, je veux aller au débat. Et le jour, son mari lui a dit, bon, ok, d'accord, tu peux y aller. Bah, tout le monde l'a appelé Mandé. En fait, c'est...
La liberté grâce au débat.
Exactement, voilà, liberté grâce au débat.
Belle école de la vie, en tout cas, et on comprend qu'on vous invite dans les mariages.
Surtout dans les mariages. La mariée est toute belle, elle vient danser avec nous. Elle vient quand même parce que nous, on est là pour elle. Donc elle est toute jolie, toute bien habillée, se met au milieu et elle sue. Comme c'est une femme, elle arrive tranquillement avec la grâce, le sourire. Elle est contente, de toute façon, c'est son jour.
Dans le mariage, par exemple, où la femme est au maximum de sa beauté, et c'est vrai d'ailleurs que les maquilleuses de mariage, qu'aujourd'hui c'est un vrai métier, elles sont merveilleuses parce qu'elles font de la femme une figure presque extraordinaire. Pour une femme, c'est le grand jour. Cette beauté, c'est pour un homme, c'est pour le mari. Alors c'est aussi bien sûr pour, dans sa société féminine, être ce jour-là la plus belle. Et au fond, c'est pour plaire à son mari et pour obtenir de lui tout ce qu'elle en attend. Alors là, les rituels le montrent de manière tout à fait exceptionnelle. Et ils sont joués de manière très ouverte, très explicite encore aujourd'hui. Mais c'est surtout sa mère ce jour-là qui a quelque chose là, qui est achevé, qui est accompli. La mère qui a réussi à éduquer une fille pour en faire la mariée d'aujourd'hui, qui a réussi quand même à lui construire une maison, qui a réussi à force de cotisation, de réciprocité avec ses amis, bien à bénéficier des ressources nécessaires pour mener à bien ce mariage, et qui a éduqué une fille avec les valeurs morales qui fait que sa fille n'a pas fait de bêtises avant le mariage. C'est-à-dire que c'est un enchaînement sans fin de rôles féminins.
On vient d'arriver chez toi. Chez toi, c'est finalement chez les femmes.
Oui, c'est chez les femmes parce qu'on habite toutes au même endroit. Ma mère, moi j'habite à côté de chez ma mère. Et en haut de chez ma mère, ce sont mes deux sœurs qui habitent. Et puis il y a aussi ma tante, donc la grande sœur de ma mère. Et là, c'était ma grand-mère, mais donc, elle habitait là aussi.
Voilà, les maisons sont toutes collées et effectivement, ça monte, il y a des étages.
Oui, et là aussi, c'est la future maison de ma petite sœur. Donc on va tout habiter au même endroit.
Et vous n'êtes pas déjà en train de construire la maison pour votre petite fille de 4 ans?
Elle, si. On va commencer à construire et du coup, ça sera sa future maison.
C'est une façon aussi d'assumer et de maîtriser tout le temps l'action féminine. Les femmes sont encouragées en famille à assumer, à prendre la responsabilité. Une vie de femme, c'est une vie qui est très dense et qui est très lourde à Mayotte, oui. Et celle qui y arrive, et qui y arrive notamment en étant chef d'association de femmes, c'est-à-dire qu'on voit tout dans ce travail, parce qu'il y a toute une activité économique, il y a un surplus, il y a un profit qui leur permet de vivre et de payer justement ce dont elles ont besoin, les études, les locations, etc. Et cette manière intelligente de gérer les ressources pour être une femme qui produit quelque chose de sa vie.
Voyage en terre d'outre-mer, chez les Maorés de Mayotte. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Lali Combro est sociologue. Il est un homme au pays des femmes.
J'habite chez ma femme. Mais les Maorés y tiennent encore, surtout les femmes. Parce que ce n'est pas une question seulement de propriété, hein. L'enjeu, c'est vraiment celui de l'autonomie. Décider aussi, parce que quand elle est fatiguée, elle peut dire au mari de partir et elle garde tout.
Il n'empêche que là, on se dirige chez votre femme.
Oui, on y va tout doucement. Ce que nous faisons là est
C'est aussi le, comment dire, le parcours d'un homme quand il se marie. Il y a une procession en fait, qui le conduit chez sa femme aussi. On l'accompagne, ses amis, sa famille l'accompagne chez sa femme. Vous voyez, il y a une stabilité par rapport à l'homme. L'homme est toujours amené à partir, à quitter son lieu de naissance, alors que la femme marque, à l'inverse, marque cette stabilité.
Ça ne doit pas être facile de quitter son... son clan de femmes pour embrasser un autre clan, ça doit être quand même quelque part une alors, déchirure.
En fait, ça aurait pu être une déchirure, mais on était préparé à ce départ. Et puis de toute façon, ce départ, c'est pas un départ définitif, puisque il y a toujours ce retour qui est quelque part dans un coin de la tête, se disant oui, les Maorés ont envisagé toujours le mariage comme quelque chose qui a toujours une fin. Voilà, donc c'est toujours envisagé quelque part ce retour par un divorce ou même par lorsque la vieillesse ou la maladie. Il y a des femmes, surtout quand elles sont jeunes, qui demandent à la famille de récupérer et récupérer leur bien-être et donc la famille du mari récupère leur homme. Et les gens trouvent rien à redire, ils disent que c'est normal, cette femme, elle est jeune, elle doit continuer de vivre en fait.
On vient d'arriver dans la maison
oui,
de votre femme.
Voilà, qu'on a construite ensemble. Mais eh bien, si jamais, je n'espère pas, les choses devaient s'arrêter entre nous, mais c'est elle qui hérite de la maison.
Voilà, et vous êtes voilà, entourée de toutes vos belles-sœurs.
Voilà, donc en main. Là-haut, plus bas aussi, et même l'autre de l'autre côté de la rue, bon, vous voyez, elle n'est pas très loin non plus. Donc on est dans la concession de mes beaux-parents.
Vous vous sentez comment libre?
Mais j'essaie aussi de penser ma liberté par rapport à tout ça. J'essaie de penser à ma liberté parce que c'est vrai que ce n'est pas évident, par exemple, parce que même dans le langage quotidien, on voit. Quand les femmes parlent des maisons, c'est ma maison. Même si l'homme a participé, mais il y a toujours cette appropriation. Ce sont mes enfants.
Est-ce que finalement, c'est une des raisons qui vous a poussé à étudier, analyser la société mahoraise?
Oui, et surtout cette femme qui m'a toujours subjugué et... Surtout, j'ai essayé de voir comment dans cette société d'hommes, donc où l'homme impose sa lecture des choses, comment elles arrivent à garder un certain rôle ou une place. Et elles proposent aussi des voies de sortie, des stratégies à cette femme. Et surtout cet attachement, en fait. C'est ce lien qui est toujours conservé entre les parents et les femmes.
Là, on est quand même dans une caricature, parce qu'on vient de rentrer chez vous et on oui, retrouve votre femme dans la cuisine, très très belle, avec son masque de beauté. Vous en pensez quoi, que votre mari, finalement, réfléchisse beaucoup à la question et à la place de la femme dans la société mahoraise?
Je trouve que c'est bien qu'il prenne l'initiative de nous étudier, nous les femmes.
Alors qu'on l'idéalise, cette femme mahoraise, elle fait quand même un peu fantasmer la place de la femme à Mayotte, etc. J'imagine que dans la réalité, c'est pas comme ça non plus. La femme qui est chef de famille, la femme qui décide de tout.
Mais au final, dans le monde politique, c'est vrai. Mais nous, on n'est pas vraiment représentés. On incite, on est là, mais finalement, c'est les hommes qui sont au devant.
Vous avez lu un peu ce qu'écrit votre mari? En tout cas, il essaye de vous comprendre. Hein.
Il faut qu'il essaie alors encore. Il aime trop parler, il aime trop...
Arrêtez-vous là. Vous avez remarqué quand même qu'on vient de se faire renvoyer par votre femme, hein?
Ah oui,
contact.
Oui. Vous voyez, je ne vous ai pas raconté des...
Des salades, non?
Non, non. Il y a des hommes qui disent, oui, c'est pas ma maison, c'est sa maison et elle s'en occupe.
Alors là, on vient d'ouvrir la porte et finalement, ici,
c'est votre espace à vous dans la maison des femmes.
Voilà, c'est mon espace dans la maison des femmes. Toujours en espérant que la vie du couple dure pour que je puisse toujours garder mon espace. C'est vrai, c'est pas des questions faciles. Hein. C'est ces femmes qui veulent la participation des maris, des hommes à la maison, une présence, c'est vrai. Elles ont raison, mais en même temps, il y a aussi une éducation qui fait comprendre aussi à ces hommes, qui inculque à ces hommes qu'ils ne sont pas tout à fait chez eux. C'est pas rare d'entendre des hommes dire « non, c'est pas ma maison ». Est-ce que la société donne la possibilité aux hommes de faire autrement ?
Il y a donc une transition, si vous voulez, que les couples et les familles mahoraises doivent opérer. En même temps, je remarque que les femmes, elles ont, si vous voulez, retiré beaucoup d'avantages de cette imposition du droit commun dans la mesure où elles se retrouvent à la tête de familles que je vais appeler matricentrées. Et elle trouve un peu dans l'État ce soutien qu'elle n'arrivait pas toujours à obtenir d'un mari autrefois, c'est-à-dire une aide permanente à minima. Et ça aussi, ça peut-être générer chez les hommes un sentiment que bon, ben, finalement, alors on ne sert plus à rien. Il faut redéfinir un peu les relations de couple.
Parce que si on était resté comme avant, je pense que les hommes auraient pris beaucoup de pouvoir sur nous. Mais c'est vrai que le département a changé beaucoup de choses avec les nouveaux... règlement.
Finalement, pour les femmes, c'est pas si mal le droit commun.
Exactement, c'est pas si mal pour nous, franchement. Maintenant, on se sent plus libre, donc ça nous fait du bien, ce département, finalement.
Depuis 2011, la polygamie a été officiellement interdite à Mayotte. Aujourd'hui, les hommes et les femmes redéfinissent leur rôle dans cette société où la parole est un art. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer. C'était un documentaire d'Anne Pastor réalisé par Fabrice Laigle. Au montage, Édouard de Penoat assisté de Maréva Jacquard, stagiaire Charlotte Landreau-Chandès et Marie Bocher. Au mixage, Théo Gomard et à la programmation musicale, Chewbacca.
Vous pouvez prolonger ce documentaire sur franceinter.fr. Merci à Daniel Margeron, Flora Devatine, Cécile Tessier-Gendreau et Geneviève Vils. Ce programme a reçu le soutien à Mayotte d'Air Austral, de l'Office du Tourisme et d'Evaneos, en Polynésie d'Air Tahiti Nuit et de l'Office du Tourisme. Le voyage continue sur France Inter avec Stéphanie Fromentin dans l'espace francophone.